France Inter.
Chers amis, bonjour.
Bonjour.
La Suze-sur-Sarthe nous accueille cette semaine, 4700 habitants, une ville qui fut une ville de tanneurs. Nous sommes dans le département de la Sarthe, dans la région historique du Maine. Il y a eu un événement assez amusant dans l'histoire du village au milieu du 19e siècle, le 5 décembre 1851, trois jours après le coup d'État de Napoléon Bonaparte, une insurrection a éclaté à la Suze-sur-Sarthe pour protester contre la violation de la Constitution, avec la participation d'ailleurs du directeur de la Grande Tannerie. De très nombreux ouvriers se sont emparés des fusils de la garde nationale qui étaient entreposés à la mairie. Ils ont mis les gendarmes en prison au vieux château, qui est devenu le quartier général des insurgés. Seulement, le soulèvement prévu des républicains du Mans ne s'est pas produit. Alors, il y a eu un petit flottement. L'enthousiasme du début a très vite fait place au découragement. Les ouvriers ont abandonné leurs fusils, sont rentrés chez eux. Les chefs de l'insurrection ont fui. Et un communiqué très officiel a alors annoncé que Paris, Lyon et la Suze étaient devenus tranquilles. Tout allait bien. La Suze était ainsi devenue la troisième ville insurgée de France. À cette occasion, au mois de décembre 1851, je tourne cette page d'histoire pour en arriver à celle du jeu, le jeu patrimonial que vous aimez tant, très écouté, très suivi, grâce à vous, notamment notre duo de candidats, Aurore Clémenceau et Éric Le Buant. Bonjour Aurore.
Bonjour Nicolas.
Portez un patronyme célèbre, question évidemment qu'on a dû vous poser à peu près un milliard de fois. Y a-t-il un lien? Et vous faites des études généalogiques pour savoir s'il y avait un lien avec le tigre?
Eh bien oui, même si... Enfin non, pas du tout, pardon.
Ah bon, pardon,
oui. Excusez-moi. Non, pas du tout, il n'y a pas de lien, mais par contre, on est remonté jusqu'aux guerres de Vendée dans la famille Clémenceau.
Aurore, vous habitez le Mans.
Oui.
Bibliothécaire en recherche d'emploi.
Oui, c'est ça. Je recherche un emploi de bibliothécaire dans la région des Pays de la Loire ou en Bretagne.
Voilà,
donc si jamais quelqu'un m'entend.
Mais on saura transmettre en effet éventuellement les contacts si des personnes nous envoient un message sur le site du Jeu des 1000 euros. Aurore, vous adorez les comédies musicales.
Ah oui, je suis vraiment fan de comédies musicales de Broadway notamment et aussi de comédies musicales françaises, donc comme Les Misérables qui étaient au Châtelet, donc j'étais allée les voir au Châtelet aux vacances de Noël il y a quelques mois.
Oui,
à Paris.
C'est ça. Oui, c'était à Paris. Oui.
Et donc c'était super et là en plus ils ont reçu le Molière il y a quelques semaines, donc
exact.
C'est formidable.
Oui, et ils vont repartir en tournée, je crois, et puis ils vont revenir au Châtelet.
Hein. En 2026, oui.
En 2026. Aurore avec Éric Le Buant. Bonjour Éric, bienvenue.
Bonjour Nicolas et bonjour aussi aux suzeraines et aux suzerains.
Oui, bien vu, bravo de citer les noms des habitantes et des habitants de la Suze-sur-Sarthe qui s'appellent en effet les suzeraines et les suzerains. Éric, vous habitez Soisy sous Montmorency et dans le
département... Au nord du Mans.
Ah, très au nord du Mans, oui, parce que vous êtes dans le Val d'Oise. Vous étiez de passage ici?
De passage du Finistère pour aller en région parisienne.
Et donc une halte pour venir voir le jeu des 1000 euros, tenter les sélections.
Grâce à Nicolas Stoufflec et... qui a stipulé qu'il y avait un jeu à la Suze-sur-Sarthe.
Il a dit ça? Ah oui, et oui,
oui,
c'est exact, ça se vérifie alors. Vous adorez justement la culture générale, Éric, à vous.
Le jeu de connaissances, oui.
Oui, oui. Vous êtes breton d'origine peut-être ou pas?
Le Buant, c'est un peu breton, ce n'est pas auvergnat.
Ce n'est pas auvergnat, ce n'est pas provençal. Éric, vous aimez justement pour Bretagne beaucoup l'architecture des églises bretonnes.
J'aime bien visiter les églises, elles sont toutes différentes.
Églises, calvaires aussi parfois.
Oui, des enclos paroissiaux.
Oui, comme vous dites, enclos paroissiaux.
Paroissiaux.
Aurore Clémenceau, Éric Le Buant, nos candidats d'aujourd'hui pour un bon moment sur France Inter. Première question bleue, tirée au sort, nous la devons à Patrick Cassonnet qui habite Nous de Sienne dans le Calvados. Où l'écrivain Chateaubriand est-il enterré?
À Saint-Malo.
À Saint-Malo.
Au Grand Bay.
Au Grand Bay, sur l'île du Grand Bay, oui, au large, un petit peu au large de Saint-Malo, au pied des remparts. Deuxième question bleue de Sylvie Rappen de Besançon. Quelle est la nouvelle appellation depuis le début de l'année pour le réseau des radios locales de Radio France qui s'appelait France Bleu?
Ici.
On les appelle
ici.
Ici, c'est
ici.
Ça.
Ici. Ici, c'est bien ça.
Ici, c'est ça.
Ici, c'est ça. Je voulais le dire, mais
nom commun d'ailleurs avec la télévision, avec France 3, puisque toutes les éditions régionales de France 3 portent également le nom, la marque, si vous voulez, ici, tout comme les radios de notre maison Radio France. Donc c'est ici même, hein, je suppose.
Oui, c'est ça, oui.
Ouais, pour, je ne sais, sais pas, Nicolas, moi. Hein.
Mais oui, mais moi je sais, Eric. Ici même pour la Sarthe. On salue nos amis du Mans. Question bleue aussi de Mathilde Jean Lalard de Lanester dans le Morbihan. Il y a des Bretons, hein.
Ils sont partout.
Ils sont partout, même dans la Sarthe. Quelle est la ville de naissance de ces personnalités ? Raoul Dufy, Raymond Queneau, René Coty, Laurent Ruquier.
Le Havre.
Oui, toutes ces personnes sont nées au Havre. Le Havre.
Laurent, ça aide Laurent le Ruquier.
C'est Laurent Ruquier qui vous a amené à la bonne
réponse. Et Dufy un peu, Raoul Dufy.
Bah oui, quand même, Dufy, c'est vrai.
Mais moins Coty, quand même.
Et René Coty, oui, oui, président de la République, né en effet au Havre en 1882, tout comme Raymond Queneau en 1903, Dufy en 1877, et notre confrère Laurent Ruquier en 1963. Il parle souvent de sa ville du Havre, dans sa jeunesse au Havre, Laurent. Question blanche de Patrick Bertrand de Four-à-les-Bains en Charente-Maritime. Quel artisan utilise une varlope, une herminette ou un riflard ?
Un menuisier ?
Pas tout à fait un menuisier.
Un charpentier ?
Un charpentier, oui. Précisément. Oui. Ce sont des outils de charpentier de marine ou du bâtiment. La varlope, c'est un grand rabot à poignée. Le riflard, un autre type de rabot. Et l'herminette, type de hache. Donc des noms d'outils du charpentier. Question blanche de Jean-Claude Soudre à présent. Jean-Claude habite de Bayonne, Pyrénées-Atlantiques. Quel roman de Balzac parle d'un ancien officier de cavalerie de Napoléon laissé pour mort à la bataille d'Eylau ?
J'ai la réponse.
Vous l'avez alors, Eric ?
Oui.
Alors c'est ?
Oui, Aurore. Le colonel Chabert.
Le colonel Chabert. Vous étiez d'accord, Aurore ?
Oui.
La bataille d'Eylau. Après avoir survécu et passé des années dans un hôpital, il retourne à Paris pour retrouver sa femme et récupérer sa fortune. C'est un court roman, en fait, d'Honoré de Balzac, Le colonel Chabert, paru dans sa forme définitive en 1844. La question rouge au nom de Marie-Christine Frézard de Coisevaux en Haute-Saône. Quel est le mot que l'on peut opposer à xénogreffe ?
Comment s'écrit xénogreffe, s'il vous plaît ?
Ça s'écrit X-E-N-O. G-R-E-2-F-E. Xénogreffe.
Bah, xéno, c'est étrange. C'est un corps étranger, peut-être qu'on greffe.
C'est ça. Donc xénogreffe, c'est une greffe, en effet, d'un organe qui vient d'une autre espèce. Et pour la greffe d'un organe venant d'un donneur qui est de la même espèce biologique, de quel terme emploie-t-on ? Monogreffe,
non.
Pas monogreffe, non. Quel terme emploie-t-on ? Question reposée tout de suite. Suspense maximum. Aurore et Eric trouveront-ils le nom que nous cherchons ? Question rouge de Marie-Christine Frézard. Quel est le mot ? C'est ainsi que Marie-Christine nous pose la question. Quel est le mot que l'on peut opposer à xénogreffe ? Quel est le nom que l'on donne à une greffe quand le donneur est de même espèce biologique que le receveur ? C'est d'ailleurs le cas le plus fréquent de greffe. Quel terme emploie-t-on dans ces conditions ?
Je sais pas.
Pas de proposition. Donc xénogreffe d'une part.
Néogreffe.
Vous m'avez dit.
Néogreffe.
Pas une néogreffe. Question posée à un spectateur. Parmi les personnes présentes en nombre d'ailleurs dans cette salle des fêtes de la Suze sur Sarthe. Bonjour monsieur, quel est votre prénom ?
Vincent.
Où habitez-vous Vincent ?
À Roisé, juste à côté.
Et votre réponse Vincent ?
Je pense à allogreffe.
Vous avez raison Vincent, c'est une allogreffe précisément. A-2-L-O, F, A-2-L-O, G-R-E, 2-F-E. T-shirt France Inter naturellement pour Vincent et pour Marie-Christine Frézard à Coisevaux dans le département de la Haute-Saône, 45 euros. Car je le rappelle, c'était une question rouge qui n'était pas si facile que ça. Je reviens sur scène pour retrouver Aurore Clémenceau et Eric Le Buon à qui j'annonce la nouvelle suivante. Vous allez, chère Aurore et cher Eric, en passant par le repêchage, peut-être pouvoir tenter le... Quelle est votre décision ?
Banco.
Banco. Question repêchage. Il faut identifier un comédien. Vous allez entendre un extrait d'un film intitulé « Le fil ». D'ailleurs, il l'a lui-même réalisé, ce film, qui était un drame judiciaire. Écoutez ce comédien.
Rien, absolument rien n'indique que Nicolas Mélic, calme, pondéré, ne buvant pas d'alcool, ait eu quelques raisons de passer à l'acte ce soir-là. Pour encourir la perpétuité aux assises, alors qu'il le savait très bien, un divorce lui aurait été favorable. Enfin, un divorce. Est-ce que vous vouliez réellement divorcer, monsieur Mélic ? Non. Non, bien sûr que non, parce que moi, je le crois, quand il me parle avec passion de l'amour qu'il avait pour la mère de ses 5 enfants.
Est-ce Daniel Auteuil, Jean Dujardin ou Michel Bouquet ? Daniel Auteuil, Jean Dujardin, Michel Bouquet ?
Daniel Auteuil.
C'est Daniel Auteuil, dans cet extrait du drame judiciaire, il jouait le rôle d'un avocat convaincu de l'innocence d'un accusé, film qu'il a lui-même réalisé, Le Fil. Panko.
Le jeu des 1000 euros. Nicolas Stoufflet. Sur France Inter.
Christian Cusset de Montbrison dans la Loire vous demande le nom du mont McKinley, point culminant d'Amérique du Nord en Alaska, entre 2015 et 2025. Alors, il y a toute une histoire et on est même dans l'actualité à propos de ce mont, puisque Donald Trump a souhaité lui redonner le nom du président américain William McKinley. Mais quel est l'autre nom, disons les choses de cette façon, du mont McKinley ? Quel est son autre nom ? Donc je rappelle qu'il s'est appelé, et encore pour certains, le mont McKinley, du nom d'un président américain, et donc on avait oublié, ce nom pour le nommer différemment. Quel est l'autre nom, pour simplifier les choses, du mont McKinley ?
C'est le nom d'un président ?
Ce n'est pas le nom d'un président. Alors, le président, c'est McKinley.
Oui.
Non,
c'est
un nom
Point culminant de l'Amérique du Nord, en Alaska.
Je vais essayer une réponse.
Oui, écoutez, c'est un petit peu ça l'idée.
Ouais. Je veux dire, mont Nunavut.
Le Nunavut,
oui.
Mont Nunavut, ce n'est pas ça. C'est le mont Denali, c'est le Denali.
Je connais pas.
Vous le connaissez pas, le mont
pas
Denali.
Pas du tout.
Alors,
ça ne revenait pas.
Il s'était appelé mont McKinley. Il a été rebaptisé entre 2015 et 2025 mont Denali. Et donc, selon les souhaits du président Donald Trump, il s'appelle de nouveau officiellement le mont McKinley, ce point culminant de l'Amérique du Nord, le mont Denali. Christian Cusset, pour sa question à Montbrison dans la Loire, gagne 45 euros. Aurore Clémenceau, Éric Le Buant, vous repartez avec le cahier de vacances du jeu des 1000 euros, coédition France Inter Marabout, et avec le récepteur radio FM et DAB+. Très bonne journée, merci de nous suivre, et à demain, si vous le voulez bien.